Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, RFI vous donne la parole jusqu'à 9h, temps universel avec dans 30 minutes vos réactions sur le dialogue national inclusif au Gabon. Le coup d'envoi a été donné hier par le général Brice Oligui Nguema. Un mois de discussion entre les forces vives de la nation pour établir un diagnostic de la situation institutionnelle, économique, mais aussi sociale du pays et surtout soumettre des réformes, de profondes réformes. Voilà ce qu'attend le général Brice Oligui Nguema. D'ailleurs, hier, il a été très clair dans son discours. Pas de tabou, pas de censure. Chacun devra s'exprimer en toute liberté et de rappeler la nécessité de conduire le pays vers une démocratie et un véritable état de droit. Alors, qu'attendez-vous du dialogue national? Quelles sont vos priorités? Dites-nous comment vous imaginez le Gabon de demain. Vous nous appelez bien évidemment 33 9 693 693 70 et vos commentaires comme tous les jours sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité et pour commencer des questions sur le Sénégal. Au lendemain de la prestation de serment de Bassirou Diomaye Faye et la nomination d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre, bonjour Jean-Bernard.
Bonjour Juan.
À Douala, au Cameroun, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Sans majorité au Parlement, Bassirou Diomaye Faye pourra-t-il mettre en place ses premières réformes?
Ah, c'est une bonne question que vous posez, bien évidemment. Et c'est la question que beaucoup se posent au Sénégal. Bonjour Léa Lisa Vesteroff.
Bonjour Juan, bonjour Jean-Bernard.
Correspondante permanente de RFI à Dakar. Comment le nouveau président et son Premier ministre pourront-ils gouverner sans majorité à l'Assemblée nationale?
Alors en effet, si les alliances restent celles qu'elles sont aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, ça risque d'être compliqué pour l'équipe du nouveau président de faire passer des lois ou des réformes, car à l'heure actuelle, le parti de Bassirou Diomaye Faye, le PASTEF, a une vingtaine de sièges à l'Assemblée. Même s'il a été dissous en juillet dernier, ce parti, ses députés sont toujours là et ils forment une coalition Yewi Askanoui avec d'autres partis qui totalisent 39 sièges, 39 sur 165. C'est bien évidemment largement insuffisant pour avoir une majorité. Pour l'heure, c'est la coalition constitutionnelle autour de Macky Sall en 2012, Beno Bokhakar, qui a le plus de sièges au Parlement, 81 en tout, avec le parti de Macky Sall, l'APR, qui est le poids lourd de cette coalition et qui n'a besoin finalement que de deux voix supplémentaires pour avoir une courte majorité. Donc on voit bien ici le potentiel de blocage, même si cette coalition a montré ces dernières semaines, cette coalition Beno Bokhakar a montré ces dernières semaines des signes de fragilité autour de la candidature d'Amadou Ba notamment, rappelez-vous, elle pourrait donc imploser ou se défaire maintenant qu'Amadou Ba, l'ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle, devient le chef de l'opposition.
Oui, on le voit bien, Léa Lisa, il y a encore beaucoup d'inconnus sur ce qui va se jouer après cette défaite d'Amadou Ba à la présidentielle.
Oui, mais à partir de là, Bassirou Diomaye Faye finalement a deux options. Soit de nouvelles alliances se créent autour du parti du président, la coalition Diomaye président, vu que le PASTEF a été dissous, on l'a dit, pour constituer une majorité. Le parti socialiste a déjà dit qu'il ne se voyait pas faire alliance avec les députés de Diomaye, mais le PDS de Karim Ouad, par exemple, pourrait potentiellement devenir un nouvel allié au sein de l'Assemblée, vu que ce parti a soutenu la candidature de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle, même si aucune annonce n'a été faite pour le moment.
Ouais. En tout cas, précisons que Macky Sall, même s'il quitte le pouvoir, il reste le chef de l'APR et il a déjà mis en garde ses troupes au sein de l'APR et de la coalition Beno Bokhakar contre la transhumance au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez une autre question, Jean-Bernard?
Oui. Pourrait-il dissoudre l'Assemblée nationale?
Ah, cette option est-elle sur la table, Léa Lisa Vesteroff?
Oui, eh bien c'est évidemment l'autre option qui est sur la table, celle de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives, ce qui ne serait possible qu'à partir du mois de septembre, 2 ans après l'installation des députés, car il faut que le Parlement siège 2 ans minimum avant de pouvoir être dissous et organiser des élections. C'est finalement l'option la plus simple pour Bassirou Diomaye Faye pour que le Parlement se fasse reste finalement le reflet des nouveaux équilibres de pouvoir et de la volonté d'alternance des Sénégalais. Mais le président n'a encore rien dit à ce sujet. Dans une interview qu'on avait eue avec lui avant qu'il soit élu, Bassirou Diomaye Faye nous avait dit qu'il aimerait éviter la dissolution de l'Assemblée nationale car elle est coûteuse et voir d'abord s'il était possible de travailler avec les équilibres actuels. À voir donc dans les prochaines semaines si c'est toujours son avis aujourd'hui ou si la rupture et les profonds changements qu'il promet vont aussi passer par une recomposition complète de l'Assemblée nationale et l'organisation d'élections législatives.
Et on suivra ça bien évidemment, notamment avec vous, Léa Elisa Vesterov, correspondante permanente de RFI à Dakar. Jean-Bernard, à Douala au Cameroun, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, ça va, c'est bon.
C'est bon ? Tant mieux, bonne journée donc à Douala.
C'est compliqué, mais c'est bon. C'est bon.
Oui, c'est compliqué, mais c'est de la politique politicienne. Mais en même temps, voilà, tout va se jouer maintenant à l'Assemblée nationale. Et on verra effectivement s'il y a des alliances, s'il y a de la transhumance ou pas. Ce sera passionnant, en tout cas pour ceux qui aiment la politique politicienne. Léa Elisa Vesterov, bonne journée à Dakar. J'en profite pour saluer tous les Sénégalais qui nous écoutent dans la capitale sur les 92 FM. 10h16 ici à Paris, on va parler du Gabon. On a des questions sur le dialogue national inauguré hier par le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema. Bonjour Tanguy.
Bonjour Juan et bonjour à tout le peuple gabonais.
Et vous êtes à Libreville.
Exactement.
Quelles sont vos questions ?
Effectivement, le dialogue national a débuté hier au Gabon. Mais comment expliquer que les personnalités de premier plan, comme Albert Ondoosa, ne soient pas conviées à ce dialogue ?
Ouais. C'est vrai que les 600 participants ont été choisis par le général en personne. Et du coup, on a entendu ici et là des voix dénoncer un dialogue exclusif et non inclusif. Bonjour Yves-Laurent Goma.
Bonjour Juan.
Correspondant de RFI à Libreville, des personnalités de premier plan, effectivement, n'ont pas été invitées à participer au dialogue national.
Oui, en tout cas, vous l'avez dit, l'absence de beaucoup de ténors de la politique sur la liste des participants a fait beaucoup de bruit. En plus d'Albert Ondoosa, cité par l'auditeur, il faut ajouter toutes les grandes figures qui ont participé à la dernière concertation politique organisée par Ali Bongo à la veille de la présidentielle de 2023. On peut citer pêle-mêle des grandes gueules comme le député de Lambaréné, David Akouré, Louis Gaston Maïla, Pierre Claver Maganga Moussavou ou l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billier-Bindié.
Oui, en tout cas, hier, dans son discours, le président de la transition, Brice Oligui Nguema, a tenté de répondre à ses critiques.
Oui, en effet, pour le général Oligui Nguema, le fait que la majorité des participants à l'actuel dialogue national inclusif ait constitué des nouvelles figures est une preuve du renouvellement de la classe politique et de la vie publique. Il a aussi dit qu'à la différence des précédentes rencontres politiques, comme la conférence nationale de 1990, les accords de Paris de 1994, le dialogue d'Arombo de 2006 ou encore le dialogue d'Angoundé de 2016, étaient des rencontres purement politiques convoquées au lendemain des crises électorales. Or, selon les proches d'Ali Bongo, selon les proches d'Oligui Nguema, oui, le dialogue actuel n'est pas convoqué à l'issue des violences. Il est plutôt question de réfléchir sur la gouvernance du Gabon, du gouvernement de Gabon.
Oui.
C'est pour cela. Désolé, il y a un voisin qui m'embête. Je suis en direct.
Bon, vous avez un voisin qui vous embête. On est en direct, Yves-Laurent Goma, on est entre nous, c'est la famille, on prend le temps de répondre aux auditeurs. Vous pouvez continuer à nous donner les explications ou pas ?
Oui, voilà. Alors donc, je disais que c'est pour cela qu'il a dit donner la priorité aux jeunes, aux syndicats, aux religieux, aux hommes d'affaires et aux associations. Les partis politiques légalement reconnus ont eu droit tout de même à un représentant. Mais pour tenir compte de ces critiques, il y a quelques leaders qui ont été repêchés à la dernière minute, poussant la liste des invités de 580 à 600 désormais.
Effectivement, on a appris hier à la dernière minute, comme vous le disiez, Yves-Laurent Goma, que le nombre de participants était passé à 600, avec l'ajout notamment de partis politiques qui avaient été oubliés. On voit aussi qu'il y a des étudiants, des enseignants de l'université Omar Bongo qui figurent désormais sur la liste des invités pour ce dialogue national inclusif. Tanguy, une dernière question ?
Oui. Alors, quelles seront les principales étapes de ce dialogue ?
Alors, dialogue qui est censé durer jusqu'au 30 avril, rappelons-le, Yves-Laurent Goma.
Oui. Alors hier, lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs personnes se posaient encore la question sur les thèmes de référence de ce dialogue. Ce qui est vrai, c'est que les questions administratives et logistiques risquent d'être au centre de premières heures. Les badges n'ont pas été distribués à temps, la liste des commissions n'est pas encore connue. Bref, lorsque tout cela sera mis en place, chacun devra donc s'inscrire dans la commission de son choix et selon ses compétences. Le travail pourrait alors véritablement commencer, car il faut, durant ce mois de dialogue, reformer les institutions, reformer les dispositifs électoraux pour garantir la transparence des élections, mettre en place une assemblée constituante qui rédigera la future constitution à adopter par référendum et penser à une gouvernance solide pour améliorer le quotidien des Gabonais. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure actuelle.
Et on en parlera évidemment dans la deuxième partie de l'émission. C'est notre débat du jour. Qu'attendez-vous du dialogue? Êtes-vous surpris d'ailleurs par l'absence de plusieurs ténors de la vie politique gabonaise? 33 9 693 693 70. Tanguy, a-t-on répondu à vos questions?
Merci beaucoup, tout est parfait. J'en profite pour saluer ma grande sœur personnelle, la première dame Zita Oligingema.
Bon, bah écoutez, le message est passé. Tanguy, bonne journée à Libreville. Et vous qui nous suivez à la radio, je vous donne rendez-vous tout de suite sur notre chaîne WhatsApp. On vous propose un sondage ce matin. Les consultations au Gabon vont durer un mois. Qu'en pensez-vous? Vous avez le choix entre plusieurs réponses. Cela débouchera sur des réformes. Je n'attends pas grand-chose du dialogue national. Ou, dommage que tout le monde n'ait pas été convié à ces assises. Vous votez et vous connaîtrez le résultat du sondage en fin de journée. Allez, on repasse au standard. D'autres questions, 33 9 693 693 70. Bonjour Tossi.
Bonjour Juan.
À Yaoundé.
Oui.
Soyez le bienvenu. Vous avez des questions sur Haïti, 3 semaines après la démission du Premier ministre Ariel Henry?
Oui, merci. Avec le chef du gang haïtien Barbecue, c'est dit ouvert au dialogue. Alors, avec qui souhaite-t-il négocier, sachant qu'il ne souhaite pas discuter avec les autorités de transition?
Oui, Barbecue, je le rappelle, c'est le principal chef de gang qui sème la terreur dans le pays. Bonjour Frédéric Thomas.
Bonjour.
Chargé d'études au CETRI, le centre tricontinental, spécialiste de Haïti. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette interview accordée à la chaîne de télévision britannique Sky News, dans laquelle Barbecue se dit ouvert à la négociation. Je parle sous votre contrôle, Frédéric Thomas. Je crois que c'est la première fois qu'il évoque cette option.
Ouvertement, oui, mais il y a déjà fait référence. Après, il s'agit d'un simple discours, parce que dans les faits, Barbecue ne veut pas négocier, n'a rien à négocier. Je pense qu'il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un acteur politique, ce n'est pas un leader de la guérilla, il n'est pas anti-système, mais le fruit même de ce système. Et ce qu'il cherche, c'est à travers un discours politique à légitimer son action et surtout à obtenir l'amnistie, l'impunité pour les crimes qu'il a commis.
Oui, donc s'il veut négocier, c'est négocier une amnistie.
C'est oui, tout à fait. Il n'y a pas de projet politique derrière. Et donc, il faut d'ailleurs critiquer le rôle de certains médias, dont Sky News en Grande-Bretagne, mais aussi Paris Match en France, qui romantisent un peu la terreur qui se passe en Haïti, qui, à travers une lecture exotique et folklorique, font de ces criminels des acteurs politiques et contribuent à les légitimer, à les rendre visibles au détriment des acteurs et des actrices de la société civile, au premier rang desquels les victimes de ces criminels, les femmes et les organisations sociales.
Alors, vous citez Paris Match, je n'ai pas lu l'article de nos confrères, mais effectivement, ils ont accordé une partie importante de l'édition de la semaine dernière à la situation en Haïti et principalement à Barbecue, donc ce chef de gang. Concrètement, Frédéric Thomas, il dit vouloir négocier, mais à l'heure actuelle, il ne peut négocier avec personne, parce qu'il n'y a toujours pas de conseil de transition.
Non, il devrait être nommé dans les prochains jours, mais ce qu'il cherche à faire, c'est lui et d'autres chefs de gang d'ailleurs, c'est à manœuvrer pour se positionner, pour obtenir un accès à la table de négociation. Et une fois à cette table, ce qu'ils voudront évidemment, c'est obtenir l'amnistie, voir un rôle politique et donc réinscrire le pays dans un cycle de crimes impunis, de gangstérisation de l'État, dont les Haïtiens et Haïtiennes ne veulent plus, dont ils veulent sortir absolument.
Et en tout cas, dans cette interview accordée à Sky News, Barbecue a déclaré « Tant que nous n'aurons pas une place à la table des négociations, le pays ne connaîtra pas la paix, les armes ne se tairont pas ». Merci beaucoup Frédéric Thomas d'avoir pris quelques instants ce matin. Je rappelle que vous êtes chargé d'études au CETRI, le centre tricontinental. Il nous reste 4 minutes, on a le temps de prendre une dernière question ce matin. Bonjour Lama Banque.
Bonjour Juan, bonjour à l'exilé politique Alpha Condé depuis la Turquie.
Bon, vous êtes en Guinée, Alpha Condé, je ne sais pas s'il nous écoute en Turquie. En tout cas, nous, on vous écoute et vous avez des questions justement concernant les récentes élections en Turquie.
Oui, l'opposition turque sort victorieuse des élections municipales alors que Recep Tayyip Erdogan a été réélu il y a moins d'un an. Comment expliquer un tel score pour l'opposition ?
Et l'opposition qui non seulement a remporté une large victoire à travers le pays en arrivant en tête dans de nombreuses municipalités, mais elle conserve Ankara, la capitale, et Istanbul, qui sont donc les deux plus grandes villes de Turquie. Bonjour Aurélien Denizo.
Bonjour.
Docteur en relations internationales, spécialiste de la Turquie. C'est un échec cuisant, évidemment, pour le président Erdogan et son parti. Mais comme le rappelait la Mabank à l'instant, il y a à peine un an, Erdogan était quand même réélu avec plus de 52% des voix. Que s'est-il passé ?
Eh bien, en fait, il faut se poser la question justement de c'est il y a un an, lorsque Recep Tayyip Erdogan a été élu. Parce que l'opposition avait déjà gagné dans les grandes villes, en 2019, et elle gagne de nouveau, et on voit que structurellement, il y a une progression des partis d'opposition au sein de la société turque, et en particulier dans les jeunes générations. Donc pourquoi est-ce que cette opposition n'a pas réussi à gagner en 2023 ? Rétrospectivement, la question se pose, et on a de plus en plus le sentiment qu'en fait, c'est la stratégie qui a été adoptée à l'époque, une espèce de grande coalition sans grande cohérence idéologique, ainsi que le candidat, qui était alors le chef du parti, Kemal Kılıçdaroğlu, et que les sondages donnaient tous perdants initialement, qui n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire qu'en fait, la surprise ne vient pas tellement de cette victoire de l'opposition ce week-end, mais plutôt, respectivement, de la défaite en 2023. Parce qu'il y a en Turquie un certain nombre d'éléments, la laïcisation progressive de la société, mais aussi l'économie, l'usure du pouvoir du président Erdogan, qui structurellement favorise.
Alors, Aurélien Denizo, excusez-moi, je vous interromps, puisque votre voix se robotise, vous êtes sur une ligne Internet, et malheureusement, le réseau s'est considérablement dégradé. On est en train de vous rappeler pendant que je parle, évidemment, pour avoir la fin des explications et essayer de comprendre justement ce revers pour Recep Tayyip Erdogan et son parti, l'AKP. En tout cas, ce qui est sûr, Aurélien Denizo, c'est que l'AKP n'est plus le premier parti de Turquie aujourd'hui, après ces élections de dimanche.
Non, il n'est plus le premier parti. Il n'est plus le premier parti et pour la première fois depuis en fait son arrivée au pouvoir.
Donc il y a 22 ans.
Exactement. Donc il y a un changement, alors pas tellement institutionnel, parce qu'en fait l'AKP reste majoritaire au Parlement. Et puis.
Bon, décidément, on n'a pas de chance, Aurélien Denizo. Je suis désolé. Le réseau se dégrade, la ligne n'est pas suffisamment stable pour continuer à entendre vos explications. On va essayer de régler ça et de vous avoir peut-être demain pour avoir la fin de vos explications. Lama Banque, on s'excuse, on est en direct. On est tributaire des réseaux téléphones. Vous en voulez pas ? Là, ma banque.
Je vous en prie, bon. C'est pas grave. Bon. Une pensée au peuple taïwanais. Merci à vous.
Merci à vous, là, ma banque, de votre fidélité. Vous continuez à nous appeler, bien évidemment, le standard reste ouvert. On attend vos questions à la rédaction pour demain matin. On a besoin de connaître vos questions avant de commencer l'émission pour contacter justement nos experts ici au sein de la rédaction, mais aussi nos correspondants à travers le monde, nos envoyés spéciaux qui se font un plaisir tous les jours de répondre à vos questions. Et on vous attend d'autant plus au standard que RFI continue à vous donner la parole. Juste après la dernière édition d'Afrique Matin, nous reviendrons sur le dialogue national inclusif lancé hier au Gabon par le président de la transition, Brice Oligui Nguema. Il y avait plus d'un millier de personnes dans la salle pour écouter le discours du président de la transition qui a été clair. Il a appelé tous les participants à s'exprimer en toute liberté, en toute sécurité. Pas de tabou, pas de censure, a-t-il dit durant les 4 semaines de discussion qui s'annoncent. Qu'attendez-vous concrètement justement de ces assises ? 33 9 693 693 70. A tout de suite.